Femme à la Une, une émission en partenariat avec Le Courrier Financier, une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier, et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Femmes à la Une. Je suis ravi de vous retrouver pour ce magazine préparé conjointement par les équipes du Courrier Financier et de Radio Patrimoine. Et pour présenter ce format, je suis en compagnie de Mathilde Audouin. Bonjour Mathilde.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va ?
Mais parfaitement bien.
Alors, on réexplique le concept de l'émission. Mathilde, chaque mois, on s'intéresse à des chefs d'entreprise, des femmes d'influence, des femmes politiques. Je crois qu'on n'en a pas encore eu, mais ça va venir. En tout cas, on fait le portrait et cette femme d'exception nous présente son parcours, comment elle concilie vie pro et vie perso, comment elle surmonte des difficultés dans leur entreprise au quotidien, comment elle concilie donc leur vie de dirigeante et de femme. Parler des femmes dirigeantes discrètes, mais qui font bouger les lignes dans cette société, eh bien voilà le concept. Et on a effectivement, comme je disais, une invitée exceptionnelle que je vous laisse présenter, Mathilde.
Mais tout à fait, Jeanne Massa, vous êtes multi-entrepreneuse, vous avez créé Habiteo, qui est la start-up dont vous vous occupez actuellement. Mais avant ça, vous avez tout un parcours, notamment en termes d'études, vous avez démarré très fort. D'une façon générale, votre parcours est une affaire de rencontres, vous rencontrez des gens, vous créez, vous vous lancez. Et cette dynamique-là nous intéresse particulièrement. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par le...
Juste avant, Mathilde, c'était le super teasing. On va faire une petite pause et on y va.
Femme à la Une, l'invité.
Première question.
Eh bien, on va commencer par le commencement. Vous avez un rapport au travail qui est particulièrement prononcé. Vous avez fait des études prestigieuses. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce point de départ dans votre vie ? Vous avez démarré par une école.
En faisant des études de sciences politiques.
Exactement.
Voilà. Normal quand on est scientifique.
Normal quand on sort d'une filière scientifique avec la volonté. Mais j'avais effectivement un rêve de petite fille. À un moment donné, c'était soit médecin, soit journaliste. La médecine, j'ai eu quelques problématiques avec le sang, les piqûres, tout ça. Donc, je me suis dit, ça sera pas pour moi. Et du coup, l'envie de faire du journalisme et de parler des grandes débat dans le monde. Voilà. Donc j'ai fait sciences politiques.
Vos parents vous ont poussé justement à entreprendre des études. Quel rôle ont-ils joué dans ce début de parcours ?
Mes parents nous ont toujours poussé effectivement à faire des études. Mon père et ma mère sont issus tous les deux de familles de paysans. Mon père est un entrepreneur dans l'âme, donc il a déjà développé beaucoup de choses et ils nous ont montré tous les deux les valeurs du travail. Ça faisait la base à la maison. Et puis ils travaillaient ensemble sur la boîte qu'ils avaient créée et donc ça nous embarquait tous les jours. Et effectivement, c'était extrêmement important. Mon père est originaire d'Italie. Je suis née moi-même en Italie et du sud de l'Italie. Donc, faire des études, c'était devenir docteur d'une certaine manière. C'est un signe de reconnaissance, c'est une manière d'avancer dans la vie et c'était extrêmement important pour eux. Et je suis la première des petites filles à avoir été diplômée, donc ils en sont très fiers.
Et vous vous êtes dirigée juste après vos études vers un domaine qui n'a pas grand-chose à voir avec la médecine, justement. Comment c'est arrivé ?
Effectivement, la première des choses, c'était effectivement le journalisme. Donc, pendant mes études, j'animais une petite émission de radio sur la radio italienne de Grenoble.
Qui s'appelait comment ? Attention, on va retrouver les archives.
Ah oui, vous pouvez, peut-être, l'émission s'appelait Tiramisu. C'est-à-dire, monte-moi vers le haut. Et c'était avec, j'avais des gens qui m'appelaient, etc. Je faisais des trucs assez...
La libre antenne, alors ?
Libre antenne avec de la musique, ouais. C'était ça. Et ensuite effectivement, commencer à travailler, à rédiger pour des petits journaux. Et puis moi-même, j'ai été pigiste, donc j'ai vendu mes articles dans un premier temps, puis rentré dans la presse professionnelle pour touristique.
Alors voilà. Attendez, parce que là, vous allez très très vite, mais il y a quand même des choses qui se sont passées. Pour bien comprendre le parcours de Jeanne Massin, il faut se pencher justement sur... Vous dites, vous passez très vite, mais en fait, pigiste n'était pas j'attends le job, c'est que vous alliez vous intéresser à des sujets, dans divers pays d'ailleurs, ouais. Et vous rameniez votre matériel matériel que vous avez envie, que vous arriviez ou pas d'ailleurs à vendre.
À vendre, ouais, tout à fait. Et je me suis intéressée à des grands sujets sur le travail clandestin des enfants, j'ai sorti ça sur à l'époque c'était Jeune Afrique ouais. qui me l'avait publié. Oui, j'ai fait.
La condition de la femme.
La condition de la femme. Oui, c'était des grands sujets. C'était tout ce qui ouais. m'intéressait. J'avais envie de changer le monde et, ouais. Et j'avais envie d'apporter des grands témoignages. Voilà, donc ouais. C'était un des beaux papiers que j'avais fait et qui était la base ensuite de mon travail sur le travail clandestin, c'est que j'avais fait un portrait d'une femme qui était juge à Bobigny et qui avait qui était juge pour enfants à Bobigny et qui avait adopté 12 enfants. Et parce que issu de situations improbables, un bébé qui était à l'aéroport, qui était à moitié brûlé, qu'elle avait gardé chez elle dans l'attente de savoir où est-ce qu'il était placé, puis finalement avait réussi à l'adopter, etc., etc. Et voilà, c'est ces choses-là qui me motivaient.
Et puis vous restez pas seulement dans la même géographie, c'est-à-dire vers Grenoble, hein, puisque vous partez directement vers l'Amérique du Sud. Là, il y a vraiment
ça c'était pendant il y a eu il y a un feeling parce que j'aime beaucoup, je m'intéressais à la littérature latino-américaine, je m'intéressais à la musique et effectivement je suis partie en deuxième année de sciences politiques faire un grand voyage. J'avais eu surtout un professeur de sociologie politique qui avait été un des ministres de Allende, donc c'est des personnes qui m'ont inspirée et qui du coup m'ont donné l'envie d'aller découvrir. Je suis partie en Amérique latine, j'ai fait un grand voyage dans lequel j'ai pu passer dans les favelas, j'ai pu interviewer des prisonniers politiques, j'ai pu faire un certain nombre de choses vraiment intéressantes à ce moment-là, ramener du matériel qui n'a pas été exploité forcément parce que c'était pas le bon moment. Et voilà.
Bon, un parcours pratiquement de grand reporter hein, qui s'ouvrait et puis finalement, là, vous repassez dans la presse professionnelle touristique.
Tout à fait.
Toujours pareil, comme disait Mathilde tout à l'heure, hein, des rencontres.
Et ça a toujours été d'ailleurs des rencontres. Et c'est des hommes qui m'ont donné des opportunités. C'est pas des femmes. C'est des hommes, à des moments donnés, qui m'ont fait confiance et qui m'ont offert une opportunité. Et donc là, effectivement, c'était un monsieur qui était en train de monter un journal de la presse professionnelle touristique qui, à l'époque, s'appelait Performance Tourisme. Et du coup, j'ai été la première journaliste qu'il a recrutée. J'ai pris en main une rubrique qui s'appelait Niche et marché d'avenir. Voilà. Et donc, je me suis bien baladée dans le monde entier avec ça pendant 2 ans. C'était intéressant.
Vous aviez un parcours, une idée de parcours de carrière fixée ou pas du tout à ce moment-là ?
Non, je ne pense pas. Je suivais mes envies, je suivais les opportunités. Et en fait, je suis curieuse de tellement de choses que non, je ne me suis jamais dit « tu seras ça plus tard ». Voilà, clairement.
Et quelle est la rencontre, justement, l'opportunité qui a fait que vous avez basculé de la presse vers un parcours plus entrepreneurial ?
Alors, à quel moment, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais déjà entrepreneuse un petit peu dans l'âme quand on est journaliste ou le vivez peut-être au jour le jour. Mais quelque part, on emmène aussi ses projets, ses idées, etc. Ensuite, j'ai fait une petite incursion dans le monde du spectacle. La même chose, c'était encore une fois très entrepreneurial. Et puis, à un moment donné, je me suis un peu stabilisée. Parce qu'il faut le dire comme ça, tout simplement parce que j'avais rencontré l'homme de ma vie et que étant tous les deux sur les routes, il y a un moment donné, je me suis dit, lui est un passionné, moi je suis pas vraiment passionnée, je suis curieuse de plein de choses, mais donc je vais me stabiliser et je suis rentrée chez France Télécom, Orange à l'époque, sur des grands call centers où très rapidement je suis rentrée dans ce qu'étaient les technologies à l'époque. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se jouer sur ces plateaux-là.
On est dans le courant des années 2000. Ouais. Alors, encore une fois, une petite ellipse, donc parce qu'elle est très pudique, Jeanne Massa, donc elle dit pas tout, mais je sais tout. Elle rencontre l'homme de sa vie qui est un musicien cubain. Et effectivement, quand on est musicien déjà, qu'on est un peu sur les routes et que si on se destine à faire de la presse professionnelle dans tous les sens, c'est vrai que c'est compliqué. Donc finalement, oui, vous stabilisez chez France Télécom. Alors, c'est la grosse maison. Là, j'imagine que le cursus quand même scolaire, en tout cas les diplômes derrière aide à rentrer. Et vous rentrez sur quelque chose qui est très tendance, c'est tout ce qui est le customer service, ou en tout cas le serveur vocal interactif. Là, c'est plus dans les directions marketing, communication que vous rentrez.
Alors non, là je rentre... Je suis en management de grands plateaux de call center, ouais, où on a énormément de clients. J'ai 18 clients en même temps, 24-24, 7 jours sur 7. Donc je fais des nuits, des jours, etc. Et c'est surtout du management là. C'est du management et de l'implémentation très rapide d'outils. Donc effectivement de logiciels, mais on pourrait vous dire on a géré le 11 septembre, c'est-à-dire que il a fallu mettre un numéro vert en place, et en l'espace de 4 heures on avait mobilisé une équipe, formé une équipe à répondre, etc. C'était emmené par le ministère de l'Intérieur, etc. Donc on a ce genre de choses, et c'est tout ce qui se vit qu'on ne voit pas forcément,
et qui est formateur
sur des centres d'appels, mais surtout de très grandes équipes à manager.
Donc, ouais, alors près de 500 personnes, plateforme d'assistance technique qui tourne, on l'a dit, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, avec, et puis vous avez une petite trentaine d'années, c'est ça à peu
près.
Oui,
c'est ça.
Donc c'est assez impressionnant de se retrouver à la tête de tout ça.
Ouais, moi je me suis jamais posé ni une question d'âge, ni une question de... Et je pense que le management, c'est beaucoup de choses qui sont... c'est avoir les pieds sur terre, en fait. Et c'est surtout être dans l'écoute des personnes que l'on manage. Je ne pense pas qu'on puisse manager à grande échelle sans, à un moment donné, faire du micromanagement. Et ça, c'est important. Et puis après, c'est beaucoup de process, mine de rien, quand on manage autant de personnes. Et rapidement, donc, naissance de mon premier enfant. Et je prends 6 mois de pause. Et du coup, l'un de mes clients... L'AF, le call center sur lequel je travaille, toute cette filiale de France Télécom Orange, décide de fermer cette filiale qui était au Opalis. Et un de mes clients à l'époque, qui était Pizza Hut, me rappelle en disant: on a besoin de vous pour nos services clients, pour prendre en tête... prendre en main tout ça. Et c'est là, effectivement, où je commence à rentrer sur du marketing.
Ah d'accord, très bien. Donc là, vous êtes...
Et je prends la tête, effectivement, de la...
Chez Pizza Hut, alors avec un défi, il faut se dire que ça, on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'on a des tonnes d'applications, on est livré extrêmement rapidement. À l'époque, ça n'existait pas, et vous lancez un service complètement innovant, vous êtes même le bêta test pour l'ensemble du monde.
Le premier site de livraison de pizza au monde,
En ligne.
Exactement.
Est-ce que ça marche ?
C'était extrêmement complexe à l'époque, parce que tout ce qui était e-commerce était en une semaine. Vous receviez ça une semaine après, vous aviez quelques jours pour pouvoir gérer les impondérables. De la pizza, ça arrive 25 minutes après chez vous. 20 minutes ou 25 minutes après chez vous. Donc c'était là un vrai record, que de gérer l'ensemble des points techniques à mettre là-dessus. Et avec effectivement, à ce moment-là, un service de paiement en ligne. C'était les premiers encore. On en était encore au tout début des TPE virtuels. Et nous, on avait interconnecté sur ce TPE virtuel 43 banques, parce que Pizza Hut était un franchiseur en France. Donc il y avait l'ensemble de ces franchisés qui étaient connectés sur la plateforme, sur le site, et avec une remise tous les soirs des revenus de chacun. C'est sur des sites e-commerce, pour ceux qui en ont fait quelques-uns, ils savent que c'est complexe.
Ouais. Et cette expérience, vous allez vous en servir juste après, justement, puisque après Pizza Hut, vous allez prendre part à la création d'une start-up bien connue aujourd'hui, Fourchette.
Création, non, j'arrive, la Fourchette est déjà créée, elle en est à sa première levée de fonds. Et on est en 2011 quand je l'ai rejoint. Et oui, je suis le premier recrutement un peu conséquent de la Fourchette. J'arrive en étant la grand-mère. Ça fait bizarre, c'est la première fois. C'est vrai qu'on a pris, on prend tout le personnel. Il y avait déjà une centaine de personnes.
C'était une grosse start-up. Et vous dites, je me retrouve face à 3 gamins, les fondateurs, finalement.
Ouais, franchement, oui. dans l'état d'esprit. Et ils étaient bien plus jeunes. Ils étaient tous plus jeunes que moi, ouais. Mais par contre, ils sont tous extrêmement brillants et intéressants.
Et ils vous font une proposition, justement, ils vous disent, on va se lancer, on s'installe à Lisbonne.
Non, à Barcelone.
Pardon, à Barcelone, excusez-moi.
Mais oui, ils me disent, il y avait une vingtaine de personnes, en fait, qui étaient sur Barcelone à l'époque, un début de service client et une petite partie commerciale. Et ils avaient une filiale en Espagne dont le siège était effectivement à Madrid. Et ils disent, ce qui serait intéressant, c'est de mettre l'ensemble des opérations sur Barcelone. Comment est-ce qu'on fait ? Ils étaient en pleine croissance, même en hyper croissance. Et donc, ils m'envoient là-bas. Ils m'envoient sur Barcelone.
Sur El Tenedor.
El Tenedor, la fourchette.
La fourchette, hein, c'est la traduction.
The Fork, aujourd'hui, ils ont tué la fourchette. Non, je rigole, mais...
Oui, c'est vrai, c'est même un peu triste, c'est bizarre. The Fork. Mais bon, voilà, il faut s'habituer, qui a été racheté.
Mais c'est une très belle histoire. C'est du début jusqu'à la fin, l'histoire de la fourchette est une très belle histoire. Elle a été revendue, effectivement, la start-up a été revendue à TripAdvisor.
Et vous devenez partie prenante de cette histoire, justement. Ouais. Vous prenez mari, enfant et bagages et vous partez vous installer là-bas.
Et on part s'installer là-bas. Effectivement, on a pris la décision en un week-end et on est parti s'installer là-bas. Alors, je fais quand même quelques allers-retours parce que les enfants terminaient l'école, terminaient leur année scolaire ici et il fallait commencer là-bas. Donc, on passe de 20 personnes à 190 personnes quasiment sur le premier mois. Donc, un recrutement intense, des déménagements, une première partie d'expérience qui est extrêmement époustouflante et puis qui a créé des liens vraiment très forts parce que c'est quelque part dans ces aventures de start-up comme ce qu'on vit aujourd'hui sur Habitéo, c'est quasiment une famille, c'est une autre famille. Moi, je parle d'Habitéo comme étant mon troisième bébé, mais c'est des histoires de famille. Et effectivement, c'est une nouvelle famille que je me suis créée au travers de la fourchette.
Alors justement, la famille Habitéo, on va y venir hein, progressivement. Je vous propose de faire une première pause musicale. C'est une chanson que vous avez choisie, Jeanne Massa. On l'écoute et vous me direz juste après pourquoi. Alors, notre maison, justement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est particulier, c'est votre choix, hein, Jeanne Massa.
Ouais, c'est autant l'ADN d'Habitéo que celui de la famille. C'est qu'on est bien, chez soi, on est bien dans nos bureaux, on se crée des deuxièmes maisons dans le bar en face. Et voilà, c'est un petit peu toute cette partie-là qui est friends, qui est...
Friends and family.
Aussi, ça pourrait l'être.
Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que oui, vous aimez... bon, si on a un père italien, on aime forcément un peu ses origines aussi.
Oui, on est bonne vivante, on peut dire ça. Et effectivement, le repas et le partage du repas prend pas mal de place. Ouais.
Je précise qu'on tourne cette émission qu'on enregistre à 13h et que Jeanne Massa, en plus, n'a pas mangé. Donc elle dit ça, c'est un peu dur pour elle. Mathilde, on enchaîne, on était sur le chemin d'Habitéo.
Oui, quand vous créez Habitéo, justement, ça s'enchaîne assez bien finalement avec La Fourchette, puisque c'est grâce aux rencontres que vous faites dans le cadre de cette aventure La Fourchette que vous allez trouver le projet Habitéo, en fait, va se présenter à vous.
Il se présente à moi sous la casquette d'un Denis Fayol, hein, qui était un des cofondateurs de La Fourchette, qui avait quitté La Fourchette à un moment donné, 2 années auparavant, et qui est un serial entrepreneur. J'ai beaucoup appris de Denis et j'ai beaucoup appris des fondateurs de La Fourchette, même si ils étaient plus jeunes que moi. Mais Denis, lui, en tant que serial entrepreneur, a accompagné beaucoup de nouveaux projets. Il a accompagné Manu, il a accompagné Zensun qui a été racheté par Treatwell, il a accompagné aujourd'hui d'autres start-up que vous reconnaîtrez certainement, mais dans des domaines complètement différents comme SingularArt, Farmitoo, NextStation, Adrenaline Hunter. Voilà, c'est un petit peu tous les projets qu'il accompagne. Il rencontre Jean-Claude Zaleniec qui est un ex-promoteur immobilier à ce moment-là et qui a en tête une idée pour créer des outils de vente à distance pour la profession immobilière. Il se dit que c'est une bonne idée, il commence à chercher, voir, construire, au moins imaginer le projet. Et l'un comme l'autre se disent, ni l'un ni l'autre ne vont faire, ne vont être opérationnels. Et du coup, Denis dit, je connais la bonne personne. Il me passe un coup de fil, je suis à Barcelone à ce moment-là, et je lui dis, je veux bien. La Fourchette était en train de faire une levée vente. Je savais à peu près où ça allait. Et il me dit, je lui dis, par contre, si tu dois me vendre un projet, tu viens me le vendre sur ma terrasse face à la mer. Et il faut me convaincre de remonter.
De déménager, de remonter,
de revenir sur Paris avec toute ma famille. Il est descendu avec une bonne bouteille, il faut dire ce qui est. Et il a réussi à convaincre toute la famille, parce que ce n'était pas que moi, c'est aussi un projet de famille.
Et donc, il convainc le clan Massa et vous vous retrouvez PDG, fondatrice d'Habitéo.
Tout à fait.
Ça fait combien de temps maintenant ?
Ça fait maintenant 2014, donc ça va faire 6 ans. Hein.
Et ça vous permet justement d'entrer dans un univers qui n'était pas forcément le vôtre au départ. Vous vous retrouvez dans l'univers French Tech, Prop Tech.
Alors d'abord, je me retrouve dans l'univers immobilier. C'est la première des choses. Ce sont mes clients. Et effectivement, alors après, dans l'univers des nouvelles technologies, moi, je les avais déjà abordées par beaucoup de biais, au travers aussi de l'expérience La Fourchette. Mais là, très clairement, j'arrive dans un univers qui est complètement différent, c'est-à-dire l'immobilier et la 3D. La 3D, j'y connais absolument rien. Mais il y a un quatrième larron cofondateur d'Habitéo, qui est Julien Frelat, et qui était un copain de promo de l'école d'ingé de Denis, qui est un petit génie de la 3D, il faut dire ce qui est, et qui crée le socle technique d'Habitéo, qui est aussi un geek qui sait parler un langage que tout le monde comprend. Et du coup, ça fait qu'on a tout de suite matché et qu'on est parti sur cette aventure.
Ouais. Ouais, on rappelle, c'est un sacré challenge. Déjà, vous devenez finalement patronne de start-up,
ouais.
Ce qui n'est pas évident. vous êtes plus... effectivement, vous étiez déjà la grand-mère dans cet univers. Bon, vous avez une bonne quarantaine d'années. Et puis, il faut dire plusieurs choses. Un, que la tech dans l'immobilier, ce n'est pas si répandu. Aujourd'hui, c'est vrai, on est habitué au salon Reint, on a vu beaucoup de choses qui sont arrivées et ça s'est beaucoup digitalisé. À l'époque, c'était assez, assez peu commun, finalement. Enfin, il n'y avait pas énormément de start-up.
C'était vraiment les prémices. En 2014, mais c'était la première aussi édition du Rent. La première édition du Rent se fait sur fin 2013. Et c'est au moment où nous, on est en train de créer le projet Habitéo. Et on lance en 2014. Donc, j'ai été en tant que visiteuse sur la première édition du Rent.
On précise pour ceux qui ne connaissent pas Rent, le Real Estate New Technology. Donc, c'est un grand salon sur les innovations technologiques.
Mais qui, à l'époque, réunissait une vingtaine d'exposants. Et j'ai été une des premières exposantes aussi sur l'année 2014. Et depuis, on est effectivement fidèle à ce salon et à d'autres sur l'immobilier. Mais sur l'immobilier, il y avait encore très peu de nouvelles technologies. Il y avait encore très peu de prise de conscience de ce qu'était le monde digital. C'est un secteur qui est très ancien. Aujourd'hui, on entend parler de PropTech de plus en plus. Il y a des investissements dans la PropTech. À l'époque, il n'y avait rien du tout. La PropTech, à l'époque, c'était se loger.
La PropTech n'a rien à voir avec la propreté. Hein. C'est pour ceux qui découvrent. Hein, parce que là, on est sur Patrimoine, on est sur Radio Patrimoine. L'édition sera relayée sur le courrier financier et également sur Radio Imo. C'est la property, technologie, beaucoup d'investissements.
Et il n'y avait pas de fonds d'investissement qui avait ces thèses d'investissement-là. Il y a un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas si évident à ce moment-là de se lancer dans ce secteur, tout en étant une start-up, des nouvelles technologies et en allant chercher les financements pour. Et encore moins, alors c'est vrai, je dis pourtant, j'aime pas être stigmatisée, mais encore moins en étant une femme. Dans l'immobilier, on est très minoritaire. Dans les nouvelles technologies, on est minoritaire. Dans les entrepreneurs, on est minoritaire.
Bon. Est-ce que c'est pour ça que vous investissez aussi? Vous portez le label Diversity dans la French Tech?
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, que l'on ait tous l'égalité des chances au départ. Et après, à nous d'aller les chercher, hein, on va être très clair, il faut avoir envie aussi. Mais oui, porter cette partie-là, parce que vous n'avez pas besoin d'être de classe sociale élevée pour pouvoir être entrepreneur. Il y a de superbes exemples qui sont issus de milieux qu'on estime défavorisés et c'est important aussi de pouvoir les porter, alors que ce soit des milieux, que ce soit des femmes, que ce soit d'origine aussi, parce qu'il est moins simple quand vous appelez avec un nom à connotation de pouvoir emmener une start-up avec des financements et avec une recherche de financement que
enfin,
quand on a un nom
on peut la démarrer
start-up
après
ou un projet quelconque.
Qu'est-ce que vous voulez dire justement aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui nous écoutent, qui se posent peut-être la question, j'y vais pas, on sent qu'elles sont un petit peu plus timorées aussi peut-être que certains garçons qui osent plus?
Tout à fait, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et tout peut s'obtenir. Et il faut juste croire en soi, il faut juste croire en ce que vous êtes capable de porter et pouvoir avoir cette passion. Si vous êtes passionné, si vous avez l'envie, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à se mettre en risque. Mon parcours fait aussi qu'à chaque fois, je me suis remis en risque. Je me suis mis en risque en lançant un Habitéo et pourtant, j'avais deux enfants. Et un mari qui a une profession qui est une profession en risque, quoi qu'il arrive. Donc, l'un dans l'autre, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis convaincue que de toute façon, on peut recommencer à zéro à tout âge. Et preuve en est, mon papa qui, à la retraite, a remonté une boîte parce qu'il avait besoin de s'amuser. Ben, très bien, voilà. Je pense que ça, c'est effectivement des valeurs qui peuvent me porter. Ouais.
Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils vous regardent? Ils vous admirent sûrement, vous êtes leur maman. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour plus tard, quand ils seront plus grands?
Que rien, alors que tout est possible, mais que rien n'est gagné. C'est le travail qui va t'emmener là où tu veux pouvoir aller. J'ai un fils qui veut être un grand sportif. Je lui dis que ça se remet en jeu à chaque fois qu'il rentre sur le terrain et qu'il peut tout gagner, mais il faut qu'il démontre à chaque fois. Et voilà, c'est tout est possible, rien n'est gagné. À vous d'emmener votre histoire.
Ben voilà un beau message. On parlait de friends and family, ouais. Les amis, la famille qui aime se retrouver autour d'une bonne table. C'est une idée aussi que vous avez eue de créer un restaurant voilà, avec tout le monde qui a amené un petit peu sa pierre à l'édifice.
Ouais, et je crois alors que c'est pas moi pour le coup. Là, c'est la famille La Fourchette. Ouais. C'est Thomas Landais qui est un ancien de La Fourchette, qui a fait aussi de très belles choses et qui a eu l'idée avec, alors je l'appellerai Tonton pour les intimes, Ben, mais en tout cas, ils ont décidé de monter ce restaurant et en amenant à l'intérieur l'ensemble des copains. Donc ouais, on est 50 à avoir mis un petit peu dans ce restaurant, et chacun y a amené aussi un petit peu de compétences. Donc c'est ça aussi ce qui fait Friends and Family. Nous, on est la famille et on amène nos friends sur le restaurant qui est 18 Cité des Bergères, pas très loin d'ici.
Qui est ouvert au public
jusqu'à 21h, mais n'hésitez pas, on y mange très très bien et c'est toute une famille qui est à l'intérieur.
Et ben voilà, si vous voulez connaître d'un peu plus près la grande famille de Jeanne Massa, ça se passe 18 Cité Bergères, c'est ça,
ah, pour Bergères, tout à fait. Bergères,
à Paris, pas très loin justement de nos studios. Allez, on termine comme d'habitude par notre Fast and Curious, question rapide, réponse encore plus rapide. À tout de suite.
Femme à la une, le Fast and Curious.
Alors Jeanne Massa, c'est l'heure du Fast and Curious. Mmh. Je vous réexplique rapidement le principe. Je vous pose une question, une alternative. Vous me répondez du tac au tac.
D'accord, je peux répondre double.
Allez-y, c'est votre réponse, c'est vous qui choisissez. Resto entre amis ou dîner à la maison?
Dîner à la maison.
Paris ou Barcelone?
Barcelone.
Levée de fonds en Serie A ou Love Money?
Levée de fonds.
Rock ou salsa?
Salsa.
Pied sur terre ou tête dans les étoiles?
Les deux, mon capitaine.
French Tech ou Silicon Valley?
French Tech.
Maison ou appartement?
Maison.
La mer ou la montagne?
Ah là, mon cœur balance, les deux. C'est autant parfait. D'un côté que de l'autre.
Bon, moi j'avais pizza ou pasta.
Pasta. Ah.
Bon, une vraie italienne dans nos locaux aujourd'hui, en tout cas semi. Merci à Jeanne Massa.
Merci à vous.
Je pense que ça va inspirer à nouveau cet épisode. Eh bien, tous ceux qui nous écoutent, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, un super parcours. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez votre ronde-serviette pratiquement, hein, sur Radio Imo, on le rappelle, puisque Habiteo, évidemment, membre de la French Tech, eh bien, on vous reçoit souvent. On a eu un grand plaisir à préparer à faire cette émission.
Et mais de même, merci
pour
ce moment.
On vous dit à très bientôt, Jeanne Massa, sur nos antennes. Merci à Mathilde du Courrier Financier, journaliste, rédactrice en chef même.
Merci Fabrice.
Merci à Jason Pignero qui a réalisé cette émission. Et on vous dit au mois prochain pour un prochain numéro de Femmes à la Une.
Femmes à la Une, une émission à réécouter et télécharger en podcast sur Radio Patrimoine.